إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui l'explication des courtes sourates du Coran, de Sourate al-Zalzala jusqu'à Sourate al-Nas. Nous en sommes aujourd'hui à Sourate al-Asr, qui est traduit par « le temps ». Cette sourate est une sourate mécoise qui, comme vous le voyez, est une sourate très concise dans ses termes. Mais malgré cela, elle comprend pour celui qui la médite, l'apprend et la met en pratique de nombreux bénéfices. Allah subhanahu wa ta'ala commence dans cette sourate par jurer par le temps. Il dit subhanahu wa ta'ala wal asr. Et ce qui est visé par le temps, ce sont le jour et la nuit, les mois et les années qui passent. Et comme on l'a vu dans une sourate précédente, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et lorsqu'il jure par une chose, cela nous montre son importance. Il attire donc ici notre attention sur l'importance du temps. Que ce temps est précieux, qu'il ne doit pas être négligé, mais qu'il incombe aux croyants de profiter de son temps afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement des œuvres pieuses. Et en parallèle de cela, tu dois prendre garde à ne pas faire de ce temps un moyen pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des péchés et des mauvaises actions qui t'éloigneront de ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc ce temps, c'est une opportunité immense pour celui qui sait en profiter dans le bien. Quant à celui qui perd son temps, qui le néglige, ne lui donne pas d'importance, qui passe sa vie dans les distractions, dans les divertissements, les futilités, ou alors celui qui ne se préoccupe que de ses affaires mondaines au détriment de ce qui lui sera profitable dans l'au-delà, alors celui-ci, il est comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, en perdition. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ. Certes, l'homme est en perdition. Allah subhanahu wa ta'ala jure donc par le temps que l'homme, c'est-à-dire l'humanité de manière générale, est en perdition. Et vous connaissez tous le sens de la perdition, qui est le contraire du gain. Donc l'humanité tout entière court à sa perte. À l'exception d'une catégorie de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les caractéristiques. Il dit dans le verset suivant subhanahu wa ta'ala إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ceci sont donc les quatre caractéristiques que doit remplir celui qui souhaite être sauvé de la perdition. La première caractéristique, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Sauf ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et qui croient au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quant à ceux qui ont mécru, ou alors ceux qui ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là, ils sont bien évidemment restés dans la perdition. Et la première chose qui leur incombe, afin de se sauver de la perte, c'est d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième caractéristique, c'est l'accomplissement des œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » et accomplissent les œuvres pieuses. Et ce car la foi, elle ne peut être valide sans être suivie par les œuvres. De la même manière que l'œuvre n'est pas valide sans la foi. Il est donc indispensable que ces deux caractéristiques soient réunies. La foi et les œuvres pieuses. Et ce car la foi, elle est définie par les gens de la sunna comme étant croyance du cœur, parole de la langue, œuvre du corps, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Donc les œuvres pieuses, elles font partie de la foi. Toutefois, on pourrait se poser la question ici, si les œuvres pieuses font partie de la foi, alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnées après avoir mentionné la première caractéristique qui est la foi? On pourrait se dire qu'en disant « sauf ceux qui ont cru », cela implique nécessairement qu'ils vont accomplir des œuvres pieuses. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté sur cela en disant, et accomplissent les œuvres pieuses. Et ce, car bien que les œuvres fassent partie de la foi, elles sont mentionnées, après la mention de la foi, pour nous montrer leur grande importance. De la même manière qu'on retrouve cela dans d'autres versets du Coran, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Soyez assidus à vos prières et à la prière médiane, c'est-à-dire la prière de l'Asr. Donc la prière de l'Asr fait partie des prières qui sont mentionnées en premier. Soyez assidus à vos prières. Toutefois, pour nous montrer l'importance de la prière de l'Asr, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné à nouveau après la mention générale de la prière. Et ceci nous montre l'importance et le mérite de cette prière. Donc de la même manière ici, il nous montre l'importance des œuvres pieuses et qu'elles sont indispensables, bien qu'elles fassent partie de la foi. Donc comme on a dit, les œuvres, elles font partie de la foi. La foi, elle est définie comme étant croyance du cœur, parole de la langue, œuvre du corps, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Et la preuve de cette définition, on la retrouve dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi est composée de près de 70 branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah ». La plus basse est le fait de retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. » Donc méditez sur les termes de ce hadith et sur la définition de la foi que l'on vient de mentionner. Vous verrez que l'on y retrouve chacun des éléments de cette définition. Parole de la langue. On retrouve cela dans « La plus haute est la parole « La ilaha illallah ». Ceci est une parole. Œuvre du cœur. On retrouve cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la plus basse est de retirer un objet gênant de la route. Ceci est une œuvre du cœur. Et la croyance du cœur, on la retrouve dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam et la pudeur fait partie de la foi. Car la pudeur, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur, bien qu'elle se traduise par des œuvres du corps. Mais la base est qu'elle se trouve dans le cœur. Reste à savoir, comment voit-on à travers ce hadith que la foi augmente et diminue? La réponse est que si la foi est composée d'environ 70 branches, celui qui a complété ces 70 branches, sa foi, elle ne sera pas égale à celui qui n'en a complété que 50. De la même manière que celui qui en a complété 50, sa foi, elle ne sera pas égale à celui qui n'en a complété que 20. Et ainsi de suite. Donc plus tu vas compléter ces branches de la foi, plus ta foi va monter. Donc, la foi, elle augmente par quoi ? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car chacune de ces branches est une forme d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les péchés, inversement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font diminuer la foi. Et comme on l'a mentionné dans d'autres cours, le musulman, il doit être attentif à cela. Attentif à sa foi. Prendre garde à ne pas la laisser baisser. Mais dès que tu ressens une baisse de foi, tu dois te remettre en question. Te rappeler à l'ordre. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre soin de ta foi. Si tu ressens cette baisse, empresse-toi de te repentir, de délaisser les péchés, de délaisser les choses qui ont pu te distraire de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis occupe ton temps dans le bien et dans les œuvres pieuses, et ce, afin de faire augmenter ta foi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit que les œuvres, elles sont très importantes et qu'elles font partie de la foi. Et ceci nous est prouvé également dans de nombreux versets du Coran. À titre d'exemple, on peut citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Hujurat, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Les vrais croyants, sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne sont point touchés par le doute, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, ceux-là sont les véridiques. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les vrais croyants comment? En nous mentionnant certaines de leurs œuvres, et notamment ici, la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs biens et leurs personnes. Et il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala dans surat al-Anfal, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, méditez sur cela, Cela fait augmenter leur foi. Ceci est une preuve que la foi augmente. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne certaines des œuvres de ces croyants et il dit الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ils dépensent de leurs biens pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oulaïka humul mu'minuna haqqa. Médite sur cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, ceux-là sont les vrais croyants. Ce sont qui les vrais croyants? Ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Leur foi augmente quand ces versets leur sont récités. Ils placent leur confiance en Allah. Ils accomplissent la prière. Ils dépensent de leurs biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que la foi, ce n'est pas simplement une simple croyance. Car il y a certaines personnes qui pensent que pour être croyant, il suffit de dire « je crois en Allah ». Puis après cela, il n'accomplit aucune œuvre. Ni prière, ni sadaqa, ni jeûne, ni pèlerinage, ni rien du tout parmi les œuvres des gens de l'islam. Pourtant, si tu médites sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras qu'il nous mentionne les croyants en décrivant leurs œuvres. Médite également sur les premiers versets de Surat al-Mu'minun. Je vais lire directement la traduction des sens rapprochés. Bienheureux sont certes les croyants. Qui sont-ils? Il nous les décrit ensuite. Ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur chasteté. Ensuite il dit, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés, et honorent leurs engagements, qui observent strictement la prière, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Donc tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les croyants en nous mentionnant certaines des œuvres qu'ils accomplissent. Tout ceci nous prouve que les œuvres font partie de la foi et que la foi n'est pas simplement une croyance du cœur, comme le pensent certaines personnes parmi les groupes égarés. Mais la foi, comme on a dit, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur, l'œuvre du corps, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Et donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour être sauvé de la perdition, il faut impérativement que tu aies la foi, que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu accomplisses des œuvres pieuses. Et il ne s'est pas contenté de dire, sauf ceux qui ont cru et ont œuvré. Mais il a dit, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ont accompli des œuvres pieuses. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de prier, de donner des sadaqats, de jeûner, et ainsi de suite. Mais il faut que ces œuvres, tu les accomplisses pieusement. Et pour être pieuse, ces œuvres doivent impérativement remplir deux conditions. La première condition est qu'elles soient sincères, qu'elles soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu accomplis ta prière, tu donnes des sadaqats, tu es jeune, tu fais le pèlerinage, la umrah, tu es bon envers tes parents, tu retires des objets gênants de la route, et ainsi de suite parmi les œuvres pieuses, comme la bienfaisance envers les voisins, la bienfaisance envers les animaux, et ainsi de suite. Tu accomplis tout cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rechercher son agrément, non pas par ostentation, non pas pour rechercher les éloges des gens, non pas pour obtenir un rang auprès des gens pour être apprécié par tes amis ou autres, mais tu accomplis cela pour obtenir l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en m'associant dans celle-ci autre que moi, je le délaisse lui et son association. Donc toute œuvre qui est vouée à Allah et à autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala la rejette. Donc la première condition pour que ton œuvre soit pieuse, c'est que tu l'avoues exclusivement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, en recherchant exclusivement sa récompense et son agrément. La deuxième condition est que tu accomplisses cette œuvre de manière conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire telle qu'elle a été légiférée dans le Coran et la sunna. Non pas en accomplissant des choses qui ne sont pas légiférées ou des choses innovées en religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après notre mère, Aisha radiyallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, alors celle-ci sera rejetée. Aussi sincère soit son auteur. Ceci est très important à souligner. Même s'il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accomplit des œuvres d'une manière qui n'est pas légiférée, qui sont innovées en religion, qui ne font pas partie de la religion de l'islam, qui ne sont prouvées ni par le Coran ni par le Sunna, qui n'ont pas été mises en pratique par les pieux prédécesseurs parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Même si cette personne est sincère pour Allah, son œuvre est rejetée. Car pour être pieuse, l'œuvre doit impérativement remplir ces deux conditions. Sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la concrétisation des deux attestations de foi par lesquelles la personne rentre en islam. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, donc je lui voue sincèrement mes œuvres. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, donc je me conforme à sa sunna dans l'accomplissement de mes œuvres. Donc telles sont les deux premières caractéristiques que doit impérativement remplir la personne qui souhaite être sauvée de la perdition. La foi et l'accomplissement des œuvres pieuses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la troisième caractéristique. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Et s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement le bien. Ils ont la foi, ils accomplissent les œuvres pieuses, mais ils ne restreignent pas ce bien à leur propre personne. Ils l'enjoignent à autrui, ils l'enjoignent à leurs proches, ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable, et ils appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce de cette noble religion, et qui l'a guidé au tawhid et à la sunnah, il ne doit pas limiter ce bien à lui-même et penser qu'il n'est pas responsable de ce que font les gens autour de lui. Mais tu dois savoir que tu as une obligation vis-à-vis de ton entourage. Et cette obligation, c'est de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal et de leur transmettre la science profitable, chacun en fonction de ses capacités. Et ça, c'est un point également très important à comprendre. Lorsqu'on dit que c'est une obligation pour le musulman d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de commander le bien et d'interdire le mal, ceci ne signifie pas que n'importe quel ignorant se doit d'ouvrir un site internet ou de donner des cours et ainsi de suite. Mais ceci signifie que chaque personne appelle Allah subhanahu wa ta'ala à hauteur de ses capacités et ce en commençant par ses proches et les gens de son entourage. L'homme doit d'abord commencer par les gens de sa maison, son épouse, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs et ainsi de suite. C'est cela qui est visé par l'obligation de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as ensuite tes amis, tes proches, tous ceux qui sont autour de toi, les gens de ta mosquée, et ainsi de suite. Et chacun appelle à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ses capacités. Et ne parle que de ce qu'il connaît. Et il prend garde à ne pas tomber dans ce très grave péché qui est de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Ce dont tu as connaissance d'une science certaine, ce que tu as appris parmi les règles de la prière, les règles des ablutions, alors il t'est permis de transmettre cela à ton entourage. Et ce dont tu n'as pas connaissance, alors pour cela, tu interroges les gens de science. La quatrième caractéristique pour être sauvé de la perdition, c'est de s'enjoindre mutuellement la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Et ce car celui qui a la foi, qui accomplit des œuvres pieuses, qui appelle à la vérité, appelle à croire en Allah, et à accomplir des œuvres pieuses, ordonne le bien, interdit le mal, alors il n'y a pas de doute que celui-ci aura besoin de patience. Car celui qui ne patiente pas sur cette religion, qui ne patiente pas sur l'accomplissement des œuvres pieuses, qui ne patiente pas dans le commandement du bien et l'interdiction du mal, alors il ne lui sera pas possible de concrétiser ces quatre caractéristiques que l'on vient de mentionner et qui permettent à la personne d'être sauvée de la perdition. Et lorsqu'on parle de patience, il est important de comprendre que la patience, elle englobe différentes choses. Premièrement, il y a la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience dans l'obéissance à Allah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois persévérer et ne pas manifester de paresse lors de l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, il y a des personnes qui sont prises de paresse quant à l'accomplissement de la prière. Lorsque vient le moment de la prière, cela est difficile pour lui. Il a du mal à se lever pour le fajr. Il a du mal à patienter jusqu'à l'heure de la prière d'Al Isha. Ceci nécessite de la patience. Donc c'est un devoir pour les croyants de s'enjoindre mutuellement la patience en ces choses-là. Si tu vois une personne qui a du mal en cela, alors tu lui enjoins la patience. Tu lui rappelles le mérite de ses œuvres, et ainsi de suite. Également, il y a des personnes, lorsqu'elles possèdent beaucoup d'argent, et que vient le moment de sortir la zakat, tu le vois devenir hésitant, Il a du mal à sortir cette grande somme d'argent. Alors celui-ci, on doit lui enjoindre la patience, de patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à l'ordre d'Allah et d'espérer en cela la récompense. Et il en est de même pour l'ensemble des œuvres de bien. Le musulman, il se doit de faire preuve de patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines choses qui demandent parfois des efforts. Il y a certaines choses qui vont te demander de lutter contre ta personne, de lutter contre toi-même. Mais tu dois patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas te soucier du regard des gens. Car il y a des personnes, malheureusement, qui ont cette volonté de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils sont confrontés au regard des gens, ou aux critiques des gens, alors tu le vois délaisser ou s'affaiblir. Et ceci est un manque de patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois faire preuve de patience. Patienter et être fier de ta noble religion, qui est la meilleure des religions, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour l'ensemble de l'humanité. Tu ne dois donc pas avoir de gêne à mettre en pratique les lois légiférées par le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu patientes face à quoi? Face à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'une personne, par exemple, soit tentée par l'argent. Il désire obtenir de l'argent. Alors, il va être tenté par certaines transactions illicites. Il va être tenté par l'intérêt usuraire. Il va être tenté par le fait de cacher les défauts de sa marchandise lorsqu'il la vend. Et ainsi de suite, parmi les formes de désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour délaisser cela, il va avoir besoin de patience. Donc les croyants, ils s'enjoignent la patience face à cela. Lorsque tu vois quelqu'un qui est tenté par le péché, tu lui enjoins la patience. Et tu lui enjoins de délaisser ce péché en recherchant l'agrément d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, il y a des personnes qui ont du mal à patienter avec leur regard et qui laissent aller leurs yeux sur toute chose qu'il ne leur est pas permis de regarder, car ceci nécessite de la patience. Donc les croyants, ils se doivent de s'enjoindre mutuellement la patience face à cela. Et ainsi de suite, parmi les péchés, il en est de même concernant l'ouïe, concernant la langue, la retenir, de prononcer des paroles interdites, et ainsi de suite. Et la troisième forme de patience, c'est la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les choses douloureuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter pour le serviteur, comme par exemple la maladie, la perte d'argent, ou pire, la perte d'un proche, et ainsi de suite. Lorsque cela se produit, tu te dois de patienter. Tu ne dois pas te lamenter ou te révolter contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, mais tu fais preuve de patience. Et les croyants, ils doivent mutuellement s'enjoindre la patience en cela, en se faisant leur appel, en se rappelant mutuellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs, que nous sommes dans ce bas monde afin d'être éprouvés, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue le véridique du menteur, le croyant de l'hypocrite. Donc ceci nécessite de la patience. De la patience dans l'obéissance à Allah, de la patience face à la désobéissance à Allah, et de la patience face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui remplit ces quatre caractéristiques, qui croit en Allah, qui a la foi, qui accomplit les œuvres pieuses, qui enjoint la vérité et qui enjoint la patience, alors celui-ci, il peut espérer être sauvé de la perdition. Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Et de par l'importance de cette sourate, il est rapporté que lorsque les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se séparaient après s'être réunis, après une assise, après une rencontre, alors l'un d'eux récitait à son frère avant de le quitter, Sourate al-Asr. Et ce car il y a dans cette sourate une exhortation immense. Comme il est rapporté de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala qui a dit, si les gens méditaient sur cette sourate, alors elle leur aurait suffi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle leur aurait suffi pour comprendre qu'il est obligatoire pour l'homme d'avoir la foi, d'accomplir des œuvres pieuses, de s'enjoindre la vérité et de s'enjoindre la patience. Car celui qui ne remplit pas ces quatre caractéristiques, alors Allah subhanahu wa ta'ala a juré qu'il est dans la perdition. Wal-asri, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui remplissent ces quatre caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées et que l'on vient brièvement d'expliquer. Il est donc impératif pour le musulman d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les œuvres pieuses, de les accomplir sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler à cette vérité, d'appeler à la foi, d'appeler à l'accomplissement des œuvres pieuses, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et de patienter sur cela. Patienter sur sa foi, patienter dans l'accomplissement des œuvres pieuses, et patienter dans l'appel à la vérité. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On verra dans le cours de demain, Salat al-Humaza. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم